La compagnie Alcan, fleuron de l'industrie québécoise, a défrayé la manchette récemment alors qu'elle fermait des cuves et mettait à pied plusieurs employés de la région de Jonquière dernièrement. Ce genre de nouvelles-là, on en entend parler, mais on entend relativement peu parler des impacts que peuvent avoir les décisions d'Alcan un peu partout dans le monde. Il faut dire qu'Alcan est une des plus grandes multinationales, une des plus grandes compagnies de production d'aluminium au monde, un des Big Six. Et on va parler à Planète cette semaine surtout d'un projet de raffinerie, d'extraction et de raffinerie de bauxite qui est prévu, projeté pour une région, la région du Kashipur dans l'état d'Orissa en Inde. Et on s'entretient avec Frédéric Dubois, journaliste indépendant, collaborateur à l'émission, qui en février dernier, lors d'un voyage d'enquête, si on veut, dans la région, a pu s'entretenir avec différents membres de la communauté là-bas et a pu, bon, prendre le pouls, si on veut, de la situation sur le terrain. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patrick.
Alors, pour la plupart des gens, on n'a pas entendu parler ou très peu entendu parler de ce projet-là. Est-ce que tu peux déjà nous refaire la genèse et nous replacer un petit peu dans le contexte de c'est quoi Alcan, c'est quoi les opérations d'Alcan et c'est quoi l'histoire de ce projet-là aussi, quels sont les différents acteurs?
Mais tout d'abord, en fait, on parle d'une région qui est située en Inde, donc sur la côte est de l'Inde, dans l'état d'Orissa, qui est un état très, très rural, qui est très agricole, et ainsi de suite, et qui comporte aussi un grand pourcentage de population hors caste. On sait qu'il y a un système de caste en Inde, donc des basses castes, comme on appelle, et aussi Adivasi, qui sont des populations tribales, donc des peuples qui ont des rituels, des cérémonies, qui ont tout un mode de vie que nous, on perçoit comme étant traditionnel, mais bon, qui a fait ses preuves et qui existe depuis, comme je disais, des milliers d'années. Et en fait, le projet dont on parle, c'est un projet, un méga projet, si on peut l'appeler comme ça, d'extraction de la bauxite et aussi d'approvisionnement d'une raffinerie d'alumine. En fait, on sait que le processus, on passe de la bauxite après l'extraction, on arrive au produit intermédiaire qui est l'alumine et on la transforme ensuite en aluminium.
Mm-hmm. Faut dire qu'au Québec, on est un des géants. Alcan, c'est un des géants de l'aluminium, mais on n'a pas de bauxite ici sur notre territoire. Donc, si on veut faire rouler un petit peu notre industrie, on doit aller chercher, piocher un petit peu la bauxite.
L'extraction se fait essentiellement à l'extérieur, étant donné qu'il n'y a pas de bauxite sur le territoire québécois. Et comme tu le disais, la fermeture des cuves dans la région de Jonquière, mais c'est exactement ça. Ça, c'est une usine, en fait, à Jonquière, qui est une usine de transformation d'alumine en aluminium. Donc, on le transforme en produit semi ou fini. Et en fait, traditionnellement, l'alumine ou la bauxite provenait de pays comme le Ghana, l'Australie ou encore la Jamaïque. Mm-hmm. Et maintenant, il y a ce nouveau projet-là qui prévoit d'aller chercher cette bauxite-là dans une des régions où les plus riches en bauxite au monde. On parle de 10% des réserves connues de bauxite dans le monde, soit 70% en fait des réserves de l'Inde, dans cette région-là où il y a déjà en ce moment 3 projets de prévus, dont celui d'Alcan. Donc, en fait, le projet d'Alcan, on l'appelle le projet d'Alcan, mais il y a d'autres joueurs dans le portrait. À l'origine, il y avait une compagnie qui s'appelait Indal, I-N-D-A-L, une compagnie indienne, qui avait 55% de part dans ce projet-là, qui est une alliance stratégique, avec une compagnie norvégienne qui s'appelle Norsk Hydro, un des grands joueurs aussi de l'aluminium dans le monde, et la compagnie Alcan, qui avait une part de 35% dans le projet. Maintenant, au cours des événements et ainsi de suite, ça a changé, la situation a changé. L'alliance stratégique se réduit à 2 joueurs, donc Alcan avec une proportion de 45% et Indal qui s'est fait racheter mais qui s'appelle Indalco maintenant, qui a toujours une part de 55%.
Ça c'est quand Norsk Hydro s'est retiré du projet suite à une polémique là dont on va parler.
Oui, on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Donc juste pour situer peut-être donner une idée des acteurs dans ce épineux dossier. On a donc, comme je disais, ces joueurs corporatifs-là. Il y a aussi le gouvernement de l'État d'Orissa, le gouvernement indien, qui, eux, agissent en quelque sorte en appui à cette interprétation-là du développement, c'est-à-dire que ces compagnies-là prétendent que ça va apporter un développement effectif, ça va moderniser l'État d'Orissa et évidemment le gouvernement qui en retirerait beaucoup d'intérêts financiers, lui en particulier, est très intéressé à ce que ce projet-là aide de l'avant et a donc donné les feux verts sur un ensemble de facteurs, soit des indicateurs socio-économiques, environnementaux et ainsi de suite. Ils ont donné le feu vert aux compagnies pour que les travaux avancent. Mm-hmm. La seule chose qui empêche la compagnie d'avancer pour l'instant, et ça depuis maintenant de nombreuses années, c'est une opposition grandissante de la population. Il y a eu, en fait, déjà, le projet a débuté, la conception du projet remonte à 1989, donc on parle de 15 ans, mais depuis 12 ans, il y a une contestation qui se fait au niveau vraiment de la base, c'est-à-dire des habitants de cette région-là qui va directement être affectée par le projet. On ne sait pas exactement le nombre d'habitants qu'il y a dans la région, mais on estime que c'est autour de 60-80 000 habitants dans la région. Et l'opposition, en fait, fragmente en plusieurs acteurs. Il y a les ONG d'un côté, qui sont des organismes qui font différents projets de développement aussi avec les habitants de la place. Et là encore, il y a toutes sortes d'ONG. Il y a des ONG qui ont été mises en place par des compagnies, par des fonctionnaires, des anciens fonctionnaires du gouvernement. Mais essentiellement, il y a donc des ONG et il y a un mouvement de base qui s'appelle le PSSP, qui, lui, est un mouvement qui rassemble quelque chose comme 20 à 30 000 personnes dans la région et qu'on appelle le mouvement du Kashipur, donc le mouvement opposé à cette mine-là. Pourquoi est-ce que ces gens-là s'opposent? On est en droit de se le demander. C'est que c'est une mine à ciel ouvert, pour commencer. Donc ça c'est sûr que ça implique une pollution aérienne assez importante. Donc la qualité de l'air serait de beaucoup modifiée par cette mine-là. Aussi, il y a différentes problématiques au niveau de l'infrastructure. Ça demande une infrastructure très, très lourde d'installer une mine, des routes, développement des trains, ainsi de suite. Donc, on change complètement là, le setting là, de l'environnement où les gens vivent actuellement. Et aussi, il y a aussi une pollution des cours d'eau qui, elle, est pratiquement inévitable parce que on est dans une région très riche en cours d'eau, de fleuves de toutes sortes, des eaux souterraines aussi. Et on sait que pour l'alumine, c'est-à-dire pour extraire l'alumine de la bauxite, ça prend d'énormes quantités d'eau, ce qui ferait en sorte, bien entendu, qu'on pomperait beaucoup d'eau dans ces eaux souterraines-là, et le fait d'enlever aussi des montagnes et des montagnes de bauxite, ça enlève la qualité de filtre que la bauxite joue en ce moment, qui filtre de l'eau de qualité. Donc, il y a toutes sortes de problématiques comme ça, mais il y a aussi un autre problème majeur, c'est les habitants de la place eux-mêmes au niveau social. Ces gens-là vivent de manière très, que nous, on appelle traditionnelle. Donc, ça veut dire qu'ils vivent de l'agriculture essentiellement. Ils vivent aussi de la forêt environnante. Ils vont s'approvisionner soit pour faire de l'artisanat, soit pour utiliser le bois pour le chauffage. Le fait qu'il s'installe un gros joueur comme ça dans la région, la qualité des sols n'est pas garantie. Les gens vont devoir être déplacés. Il y a déjà eu un estimé qu'on ramène souvent dans le dossier. Là. C'est l'estimé le plus important qui a été amené par l'équivalent de l'ACDI, l'agence de développement en fait norvégienne, qui elle estime qu'il y aurait quelque chose comme 60 000 personnes de déplacées par le projet ou affectées, c'est-à-dire déplacées ou affectées.